À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta, et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
N'en parlons pas beaucoup, et pourtant, elle est toujours un peu là, en arrière-plan de nos actes et de nos pensées. On travaille dur tant qu'on peut le faire, parce que le jour viendra où on ne pourra plus travailler. Nous recherchons des relations qui durent, parce qu'à une certaine échelle, le temps se fait court. La plupart du temps, cependant, et surtout dans nos pays occidentaux, elle reste cachée. Mais il arrive quand même que nous devions la regarder en face, devant un cercueil, à des obsèques, en entendant une nouvelle. Nous faisons face à l'absence de celui ou celle qui avait été présent. Nous n'y pouvons rien, rien du tout. Il n'y a rien en nous, pas même nos efforts les plus intenses, qui pourraient ramener celui ou celle que nous connaissions. Parce qu'elle, la mort, ne négocie jamais. Sa porte est fermée et nous n'avons pas la clé pour l'ouvrir. Mais au fond, pourquoi ces larmes? Pourquoi tant de douleurs si, comme beaucoup le pensent, nous ne sommes rien de plus que le résultat de millénaires de réactions de pur hasard qui se sont enchaînées les unes après les autres et qui continuent à le faire. Pourquoi est-ce que la mort nous semble si douloureuse, si injuste, si anormale? Et si c'était parce que justement, nous n'avons pas été créés pour la mort, mais pour la vie? Au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, pour ceux qui viendront à la retraite d'église le week-end prochain, on en parlera encore bien plus, il nous est dit que l'homme et la femme sont placés dans un jardin au centre duquel est placé l'arbre de vie. Cet arbre est symbolique. La vie est pleinement disponible. La vie n'a aucune raison de s'arrêter. Mais par un sombre mystère, c'est ce que nous présente le début de la Bible, l'homme a choisi de se détourner du Dieu de la vie. Comme Sophie l'a dit tout à l'heure, c'est un choix que tous nous avons, d'une manière ou d'une autre, active ou passive, fait. Et le récit de la Genèse nous dit que depuis ce choix tragique, le chemin, l'accès à l'arbre de vie est barré pour l'homme. La vie humaine, dans un sens, est désormais un compte à rebours. La porte de la mort est fermée à double tour, je l'ai dit, et nous n'en avons pas la clé. Un seul peut l'ouvrir pour nous, c'est celui qui a créé la vie. Et c'est de cela que le récit de ce soir nous donne un aperçu. À mon sens, c'est l'un des récits les plus intenses et les plus poignants de la Bible entière. Jean, dès le début de son évangile, nous présente Jésus comme Dieu fait homme, Dieu fait chair littéralement. Et dans le récit de la résurrection de Lazare, nous voyons Dieu en Jésus-Christ. Nous voyons Dieu ouvrir la porte de la mort. C'est une ouverture encore temporaire. La porte est en quelque sorte entrouverte. Une ouverture temporaire qui préfigure un acte plus stupéfiant encore qui viendra à la fin de l'évangile de Jean et des quatre évangiles. Mais dès ce soir, Jésus nous révèle plus profondément encore qui il est et il nous révèle ce qu'il va faire pour sauver l'homme de la mort. Alors je vous propose une réflexion en trois étapes. D'abord larmes et indignation, ensuite révélation et confiance, et enfin, en conclusion, autorité et vie. Larmes et indignation, tout d'abord. Lorsque la mort menace, notre réaction tout à fait normale, lorsqu'elle menace pour nous-mêmes, mais aussi plus fréquemment pour d'autres que nous connaissons, notre réaction tout à fait normale est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver une délivrance. Tant qu'une personne est en vie, même si la vie ne tient qu'à un fil, on se mobilise avec nos moyens et en particulier grâce à la médecine moderne pour laquelle on peut remercier Dieu. Au moment où je travaillais sur ce message et encore aujourd'hui, les médias disent que le jeune pilote de Formule 1, Jules Bianchi, est entre la vie et la mort. Une expression bien sûr, après son terrible accident. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour le sauver et l'espoir est encore permis. Mais comme on le dit, et sans mauvais jeu de mots, c'est une véritable course, pour le coup, contre la mort. Or, lorsque Jésus apprend que Lazare, son ami, est gravement malade, il a une réaction qui peut nous sembler complètement incompréhensible au premier abord. Il attend. Lui qui a accompli tant de miracles, il attend. Dans le village de Béthanie, pourtant, c'est en Jésus que tous les espoirs sont placés. Marthe et Marie envoient un messager, Marthe et Marie, donc les sœurs de Lazare, envoient un messager à au moins un jour de marche, voire deux jours de marche, selon les hypothèses des spécialistes, pour dire à Jésus, viens vite. Et pourtant, et comme Paul nous l'a montré la semaine dernière, Jésus attend deux jours, avant même de se mettre en route. Et paradoxalement, c'est au moment où il sait que Lazare est mort, semble-t-il par un moyen surnaturel, parce que le Père lui a révélé, c'est seulement à ce moment-là, alors qu'il sait que Lazare est mort, qu'il se met en marche vers Béthanie. Alors les disciples ne comprennent pas très bien ce qui se passe, et si on était à leur place, je pense que ça serait la même chose. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il affirme au verset 4 que la gloire de Dieu va se manifester par cette maladie. L'arrivée de Jésus à Béthanie nous est décrite de manière particulièrement poignante au verset 20 et suivant. Marthe, la sœur aînée vraisemblablement, vient à la rencontre de Jésus et elle ne peut pas contenir sa profonde tristesse et sa déception. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'est pas nécessairement un reproche qu'elle lui fait, mais simplement le constat que Jésus était leur seul espoir. Un peu plus tard, c'est sa sœur Marie qui tombe aux pieds de Jésus, verset 32, et lui dit la même chose que Marthe. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Implicitement, les deux sœurs reconnaissent déjà que Jésus a autorité sur la mort, qu'il a la puissance de faire reculer, en tous les cas, la mort. Mais maintenant que l'événement a eu lieu, il y a déjà 4 jours, il est difficile d'envisager autre chose que le deuil et la tristesse. En lisant ce texte, pour moi, c'est une évidence que Jean, son auteur, était sur place. Tout dans ce texte, jusqu'au plus petit détail, apparaît de façon criante comme du vécu, raconté par un témoin oculaire. Mais Jean ne nous explique pas tout, sans doute parce qu'il y a des choses qui lui échappaient même à lui. Et les versets 33 et suivants sont empreints de mystère. Verset 33. « Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. » Il y a certaines traductions de la Bible qui affaiblissent un peu cette phrase en disant « il fut profondément ému ou bouleversé ». Bien sûr qu'il l'était, mais le texte original grec dit bien « son esprit s'emporta ». Et il se troubla, ou il trembla d'indignation, autre traduction possible. Jésus est en colère, profondément en colère, et là on se demande « mais contre qui ?» Et Jean ne nous le dit pas directement. Mais après cette réaction de profonde indignation, Jésus demande, peut-être en tremblant encore, « Où l'avez-vous mis ?» Et là, ce n'est pas Marie qui répond. Je me dis que c'est peut-être parce qu'elle ne peut pas, elle sanglote. Ceux qui accompagnent Marie disent à Jésus « Viens voir ». Une phrase que Jean aime bien, plusieurs fois dans son évangile, il y a cette expression « Viens voir ». Et là, avant même d'arriver au tombeau, semble-t-il, Jésus fond en larmes. Ce verset est saisissant et mystérieux. Jésus sait depuis le début ce qu'il va faire et on le voit au début du chapitre, on l'a vu la semaine dernière. Alors pourquoi pleure-t-il? Et puis quelle est cette indignation? Contre qui est-il en colère? Jean ne nous le dit pas, mais en lisant attentivement le texte, je pense qu'on peut le comprendre au moins en partie. L'émotion de Jésus semble augmenter au fil du récit, au fur et à mesure que sa confrontation avec la mort de Lazare s'intensifie. Face aux larmes de Marie, qui laisse libre cours à sa douleur, face aux larmes aussi des gens qui l'accompagnent, Jésus s'indigne profondément. Et lorsqu'on l'invite à venir voir un tombeau, non plus voir son ami Lazare, mais le simple endroit où son corps sans vie a été placé, Jésus fond en larmes. Son ennemi, est là devant lui. C'est pour la combattre, elle, la mort, qu'il est venu. Et Jésus, Dieu fait homme, ne fait pas semblant. Il est véritablement homme. Il vit la situation avec les émotions d'un homme qui a perdu son ami proche. Et en même temps, il est véritablement Dieu, le Fils unique qui est auprès du Père depuis toujours, Jean nous l'a dit au début de l'Évangile. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé ce que Dieu pense de la mort et comment Dieu réagit face à la mort, face au départ d'un proche, alors qu'on sait que Dieu est tout-puissant. Difficile de ne pas s'interroger. Est-ce qu'il est indifférent? Est-ce qu'il est trop élevé pour comprendre notre peine? L'attitude, la vraie attitude de Dieu face à la mort, nous la découvrons dans ce texte, dans toute sa force. Jésus dira plus tard à ses disciples que celui qui l'a vu a vu le Père. Et dès le début de l'évangile de Jean, Jean nous dit que le Fils est venu pour révéler le Père, pour dévoiler le Père. Or ici, face à la mort, Dieu tremble de colère et il fond en larmes. Ce ne sont pas des larmes d'impuissance, ça c'est sûr. Ce sont les larmes de celui qui a vu le mal et la mort s'attaquer comme un parasite à sa création. Et qui voit ces hommes, ces femmes qu'il a créées pour la vie, pleurer face à leur impuissance devant la mort. Certains pensent qu'il y a aussi dans ces larmes de Jésus la tristesse du manque de foi de ceux qui ne peuvent pas croire que Jésus a la puissance de ramener cet homme de la mort. Je n'en suis pas certain, c'est possible. Mais en tout cas, Dieu est en colère face à cette réalité de la mort. Ceux qui assistent à la scène réagissent tout naturellement, verset 36. Regardez combien il l'aimait, regardez, c'était vraiment son ami. Pour eux, Jésus pleure la mort de son ami proche, et c'est vrai. Mais il y a tellement plus que cela. Jésus s'apprête à livrer bataille contre son ennemi. Ce n'est pas encore la bataille décisive qui aura lieu un peu plus tard. Mais nul doute qu'alors qu'il se prépare à défier une première fois le tombeau, Jésus pense déjà à ce jour qui s'approche, où il devra lui-même se livrer à la mort pour nous. Mais avant de revenir à cette confrontation entre Jésus et la mort de Lazare, on va s'intéresser à la manière dont Jésus se révèle dans ce texte. Et c'est le deuxième point, révélation et confiance. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et finalement, cette phrase de Marthe et ensuite de Marie, elles disent toutes les deux la même chose, ça correspond sans doute assez bien au ressenti que nous pouvons avoir face à la mort. Et peut-être surtout lorsque c'est une mort inattendue, arrivée trop tôt dans la vie, mais de façon générale face à la mort. Je pense à ce jeune homme qui fréquentait la RDS et avec qui je suis allé déjeuner. Et la conversation était enjouée, enthousiaste. Il me parlait de sa foi récente. Et là, je l'interrogeais un peu sur son arrière-plan. Et là, en parlant de son père décédé quand il était encore petit, ses yeux se sont embués, ses lèvres ont tremblé. Il a eu du mal à continuer. La douleur était encore tellement vive. Et je suis sûr que, et je sais que plusieurs ici ont vécu des choses semblables. Nous croyons en un Dieu qui a créé le monde, qui est souverain sur l'univers. Pourquoi n'intervient-il pas pour rétablir la santé de ceux qui nous sont chers? Et parfois, nous pouvons avoir l'impression qu'il a délibérément attendu, comme dans ce récit. Plutôt que de venir à notre secours, il a laissé la mort intervenir. Pourtant, Jésus sait ce qu'il fait, et on le voit dans ce récit. Et dans la souffrance de Marthe, verset 23, il fait renaître l'espérance. Ton frère se relèvera. Marthe, comme la plupart des Juifs de son époque, croit cela. Elle croit que le jour viendra où ceux qui ont placé leur confiance en Dieu recevront de lui une vie nouvelle et même une vie corporelle, physique, à la fin des temps. Elle croit en cela et que ça arrivera à la fin des temps, mais ça paraît tellement lointain et tellement abstrait de penser à la fin des temps. La résurrection, oui, j'y crois, on peut se dire ça souvent, mais à quoi ça peut bien ressembler? Comment cela va-t-il se passer? Mais Marthe a la foi, je sais qu'il se relèvera à la résurrection, verset 24. Dans un sens, on aurait pu croire que le texte s'arrêterait là, avec des paroles de consolation de Jésus. Ton frère se relèvera. Et Marthe qui confesse que oui, malgré sa peine, elle croit cela. Mais là, on arrive à l'une des phrases clés de ce texte et même de tout l'évangile de Jean. « C'est moi, lui dit Jésus, qui suis la résurrection et la vie. » C'est écrit sur l'une des affiches là-bas. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Jésus ne dit pas « Grâce à moi, tu connaîtras un jour la résurrection et la vie. » Même si c'est effectivement vrai, mais il dit « La résurrection, la vie éternelle, c'est moi !» En Jésus-Christ, le Créateur est venu dans son monde. Dieu est rentré dans l'histoire qu'il écrit. Il a, lui, les clés de la porte de la mort. Versets 25 et 26. « Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi, ne mourra jamais. » Deux phrases qui, si on les regarde bien, peuvent sembler un peu en tension d'abord. Mais Jésus veut montrer que lorsqu'on entre en relation avec lui, même la mort physique débouche sur la vie. La mort n'a pas le dernier mot. Elle ne pourra pas nous retenir. Elle ne fera que laisser place à la vie. Et dans ce sens, c'est comme si Jésus disait, ce n'est pas la véritable mort. Ce jour-là, proclamait le prophète Ésaïe, bien longtemps avant, ce jour-là, il anéantira la mort pour toujours. Jésus se révèle ici comme le Seigneur de la vie. Ce n'est pas seulement qu'il a le pouvoir de donner la vie éternelle, même s'il l'a. Il est la vie, en lui. Et Jean nous l'a dit dès le début de son évangile. En lui, il y a la vie, il y a la source inépuisable de la vie. Et quand Marthe affirme qu'elle croit que son frère se relèvera un jour, mais qu'elle poursuit ensuite en disant qu'elle croit que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, elle a compris l'essentiel. Face à la perspective de la mort, nous avons deux possibilités. Soit la fuite en avant en essayant de tirer le meilleur parti de notre courte vie, finalement. Et pour l'essentiel, c'est le choix préconisé par notre civilisation. Maximise la vie parce qu'à un moment donné, elle va s'arrêter. L'autre possibilité, c'est comme Marie, de se jeter aux pieds de celui qui a créé la vie et qui a la puissance et l'autorité de vaincre la mort. La foi, c'est faire confiance à un Dieu qui n'est pas limité par nos limites, qui a la maîtrise du temps, de l'univers et de l'histoire. Et même s'il y a des situations où on ne comprend pas pourquoi il n'agit pas comme on le souhaiterait, la foi, c'est croire qu'il n'est pas impuissant, que même la mort n'est pas un obstacle pour lui, et qu'il saura révéler sa gloire, toute l'excellence de son être. Il le fera pour notre bien, et il le fera même dans les situations qui semblent les plus désespérées. Si Dieu a l'autorité sur la pire chose qui puisse nous arriver, c'est-à-dire la mort, à vue humaine, la pire chose qui puisse nous arriver, si Dieu a autorité là-dessus, a fortiori, il a autorité sur tout le reste, sur tout le mal que nous pourrions vivre. Notre récit se termine de manière stupéfiante, parce que ce que Jésus va faire pour Lazare dans ce récit, il ne l'a pas fait pour l'immense majorité des gens qui sont morts de son vivant à lui et qu'il aurait pu rappeler à la vie. Il ne l'a pas fait, par exemple, pour ses parents humains, Joseph et Marie. Il ne l'a pas fait pour tous ses disciples morts depuis. Alors pourquoi cet acte? Bien sûr, il y a une simple dimension de compassion, d'amour, et Dieu, dans sa souveraineté, c'est aussi être spontané, c'est mystérieux. Face à la douleur de Marie, de ceux qui pleurent, il y a une dimension de, bien sûr, très forte de compassion. Mais surtout, Jésus fait ici une sorte de bande-annonce de ce qui arrivera un jour. Il veut donner ici un signe de son autorité sur la mort et de sa puissance pour ramener à la vie ceux qui sont morts. On en arrive au troisième point et ce sera ma conclusion. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'hésite pas. Verset 39, « Enlevez la pierre ». Et Jean, là encore, on voit qu'il est témoin oculaire. Il va jusqu'à rapporter cette réaction spontanée de Marthe, « Ça va sentir mauvais ». Sans doute que Marthe ne pense pas seulement au confort olfactif de ceux qui sont là, mais ouvrir le tombeau, c'est revenir sur la mort de son frère, c'est enfoncer encore le couteau dans la plaie, c'est devoir faire dans un sens face à son départ une fois de plus. Mais Jésus a d'autres projets, verset 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enlève donc la pierre. Et là, c'est frappant de voir que Jésus ne demande pas au Père de lui accorder la résurrection de Lazare. Cette prière, apparemment, elle a déjà eu lieu. Peut-être même avant que Jésus prenne la route pour Béthanie. Jésus se contente ici de remercier le Père parce qu'il sait déjà que sa requête sera exaucée. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. » Et il précise ensuite que c'est pour que la foule croie que le Père l'a envoyé qu'il prononce ses paroles à voix haute. Puis vient le dénouement, verset 43. Lazare sort. Et Jean écrit alors un peu curieusement. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et je pense que par ces mots, Jean ne veut laisser aucun doute. Celui qui sort du tombeau est bien celui qui était mort depuis 4 jours. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet épisode ? Est-ce que Jésus nous invite à prier pour la résurrection des gens que nous connaissons et qui sont morts, par exemple ? Je pense que la réponse est non. Beaucoup d'indices dans la Bible d'un point de vue général, mais de même qu'au chapitre 9, la guérison de l'aveugle, c'était avant tout un signe de la lumière que Dieu apporte dans l'obscurité. Ici, la résurrection de Lazare, c'est avant tout un signe de l'autorité que Jésus a sur la mort. Notons d'ailleurs que la résurrection de Lazare n'est pas du même ordre que celle que Jésus promet, que Dieu promet pour la fin des temps, et que Jésus lui-même connaîtra quelques semaines après cet épisode. Lazare a été rappelé à la vie, mais il a été rappelé à la vie présente, à la vie dans la condition présente, avec un corps sujet à la souffrance, à la maladie, à la mort. Lazare est mort à nouveau, plus tard, une date que nous ne connaissons pas. La résurrection que Jean dévoilera à la fin de son évangile, celle de Jésus, elle est d'un autre ordre. Jésus remporte une victoire totale et définitive sur la mort. Il ressuscite dans un corps éternel, impérissable, qui n'est plus retenu par les limites de ce monde, mais qui appartient déjà au monde à venir. Et Jean souligne cela tellement, avec tellement de finesse. C'est un auteur incroyable, Jean. Alors que Lazare est enveloppé de bandelettes et d'un linge lorsqu'il sort de son tombeau, les disciples de Jésus, quelques temps plus tard, retrouveront les bandelettes et le linge qui avaient été mis sur Jésus, posés dans le tombeau vide de Jésus, rangés sur le côté. Pour Lazare, il a fallu que Jésus l'appelle et puis qu'on l'aide à enlever sa tenue mortuaire. Jésus, lui, est lui-même sorti du tombeau. Il a définitivement laissé la mort derrière lui. Il a ouvert la porte, non seulement pour lui, mais il a ouvert la porte pour nous aussi. J'ai dit déjà que la résurrection de Lazare, c'est en quelque sorte une bande-annonce de la victoire totale et définitive que Jésus lui-même allait remporter sur la mort quelques semaines plus tard. Et aussi une bande-annonce de ce jour à venir où, après avoir rassemblé par la foi tous les siens, Dieu va établir un nouveau monde où la mort n'aura plus sa place. Elle aura été définitivement engloutie par la vie. Et cette vie, elle vous est offerte. Et peut-être que certains ce soir ne l'ont pas encore saisie. Mais si c'est le cas, n'attendez plus. Venez à Jésus-Christ. Et si vous ne savez pas par où commencer pour venir à Jésus, n'hésitez pas à venir m'en parler, en parler à Sophie, à Paul ou à d'autres encore avec qui peut-être vous êtes venus à cette rencontre et qui pourraient vous en parler. Je vais prier pour terminer. Merci notre Dieu parce que tu as autorité sur la mort. Merci pour cette voix qui a rappelé Lazare à la vie. Merci pour cette voix qui nous rappelle à la vie aujourd'hui encore, spirituellement d'abord, mais un jour, corporellement également. Merci pour cette nouvelle création que tu gardes en réserve pour nous, que tu dévoileras un jour. Dans un monde qui refuse bien souvent de croire en quoi que ce soit au fond, nous te demandons de nous renouveler dans notre foi que toi, le Créateur de la vie, tu nous as créés pour la vie. Et tu veux nous redonner la vie. Et c'est ce que tu nous offres ce soir et nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus. Amen.